Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est le politologue Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain.
Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors parmi vos nombreux ouvrages, on retiendra Sortir du chaos chez Gallimard, c'est le dernier. Hein.
D'accord,
c'était en 2018. Dans ce livre, vous parliez du général Soleimani. Je voulais vous poser une question très simple. Ce général iranien, on l'a dit dans le journal, Téhéran, noir de monde pour lui rendre hommage aujourd'hui, mais militairement, stratégiquement, est-ce qu'il représentait une menace?
Alors, c'était le grand proconsul qui avait construit militairement cette espèce de ce qu'on appelle le croissant chiite ou la grande zone d'influence de l'Iran qui va des banlieues sud de Beyrouth jusqu'à l'Afghanistan, si vous voulez. Et en ce sens, sa mort porte un coup très fort à l'architecture militaire régionale de la République islamique. Il faut bien savoir que l'Iran a construit sa zone de défense en grande partie sur la frontière israélienne, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de faire savoir aux États-Unis, par exemple, si vous nous bombardez, nous, on a des missiles qui sont capables de détruire Israël à partir de du Hezbollah au Liban autrefois et maintenant, autant que possible, des milices iraniennes ou supplétifs iraniennes qui sont en Syrie. Donc c'est lui qui avait construit tout ça et évidemment, l'attaque de Trump, l'assassinat de Soleimani, se veut un signe très fort des États-Unis. Pourquoi est-ce que Trump a pris cette décision qui semble un risque énorme? Je crois que c'est parce que la menace d'attaque de l'ambassade américaine en Irak a réveillé aux États-Unis, si vous voulez, ce souvenir traumatique jamais lavé, jamais purgé l'attaque de l'ambassade américaine Téhéran. Il y a 40 ans.
Évidemment, et je vais faire attention avec les mots, mais on est dans le symbole, le souvenir de cette attaque
bien
de
sûr.
L'ambassade à Téhéran, l'importance de ce général Soleimani, et aujourd'hui, un Iran qui est obligé de réagir, quelque part.
Oui, alors, si
provoqué.
Vous avez raison, si on repart sur... sur la dimension américaine d'abord. Vous vous souvenez qu'il y a 40 ans, en 1980, Jimmy Carter, qui était candidat à sa réélection, a perdu quelques mois plus tard la réélection à cause de la gestion désastreuse de l'affaire des otages de l'ambassade. Et évidemment, pour les Iraniens, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire dérailler la réélection de Trump, lui-même ayant tapé pour ne pas se faire, si vous me le pardonnez, cartériser, vous voyez ?
Est-ce que Téhéran a les moyens d'abord ?
Alors, même si on a beaucoup dit que le général Soleimani était quelqu'un qui avait un pouvoir extraordinaire, ces analyses sont un peu remises en cause aujourd'hui par les observateurs. Vous avez un important éditorial de Tom Friedman dans le New York Times qui, à partir de sources israéliennes visiblement, explique que au fond, chaque fois qu'il envoyait un avion à Damas plein de volontaires, une demi-heure après, il y avait un missile israélien qui le dézinguait. Et le fait qu'il ait été identifié et tué à l'instant même où il arrivait, on le sait maintenant, du Liban, puisqu'il s'était entretenu avec le monsieur Nasrallah, le patron du Hezbollah, quelques jours avant, comme l'a dit celui-ci, montre bien qu'il était totalement sous surveillance, filé. Et on voit aussi dans cette affaire la puissance aujourd'hui des drones comme une arme imparable pour tuer qui on veut, où on veut, en n'importe quel lieu.
Mais est-ce que Téhéran aujourd'hui a les moyens de répondre aux Américains ?
Sans doute, oui, puisque les réseaux de djihad chiites sont très présents. La machine Soleimani, même s'il est mort, reste là un peu partout. Et on l'a vu dans le passé, par exemple, vous vous souvenez, enfin, vous êtes jeune, dans les années 80, lorsque la France soutenait Saddam Hussein, la France de Jacques Chirac soutenait Saddam Hussein, et celle d'avant, avant lui, François Mitterrand, l'Iran avait activé des djihadistes libanais pour prendre de nombreux otages français. C'était le but de l'opération. Il y a eu l'attaque du centre culturel israélite en Argentine aussi, probablement par des gens liés à une branche du Hezbollah. Et donc tout cela, ce sont des choses dont la machine de guerre iranienne a la capacité, indéniablement.
Aujourd'hui de l'Iranian Cyber Army aussi, elle risque de cyberattaque côté iranien.
Ça, il y en a partout, effectivement.
Mais sans plus.
Ça a plus des Iraniens, des Russes, des Américains,
d'accord,
etc. Mais le véritable enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que Trump va être obligé de faire face à une attaque qui va l'obliger à mobiliser des forces, à renvoyer des soldats dans la région et être pris dans l'engrenage d'une guerre qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez, parce que, rappelez-vous, il a été élu en 2016 grâce à ces fameux swing states, ces États qui basculent, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, où il y avait eu beaucoup de jeunes qui étaient partis à la guerre en Irak. C'est des États où il n'y avait plus de travail. Ils sont revenus, pour beaucoup d'entre eux, dans des sacs en plastique. Et Trump a fait campagne dans ces pays en disant plus jamais la guerre, des guerres inutiles, America first, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il va être pris dans l'engrenage inverse?
Et si ça, leur expliquer qu'il doit renvoyer des boys, ça va être plus compliqué.
Et ça va être très difficile. Et donc c'est là le véritable enjeu aujourd'hui. Les Iraniens sont parfaitement avertis de ce que c'est que la vie politique américaine. Ils ont fait dérailler Jimmy Carter. À mon avis, aujourd'hui, leur objectif, c'est d'empêcher la réélection de Trump par tous les moyens.
Le Parlement irakien qui réclame le départ des troupes américaines, quel est le rôle que peut jouer Bagdad aujourd'hui?
Alors ça, il faut un peu d'explication. C'est que lorsque les Iraniens et les États-Unis passaient leur temps à se battre partout, en Irak, paradoxalement, ils avaient établi une sorte de condominium sur le pays. Il y avait des Américains et des Iraniens qui collaboraient pour gérer un Irak dominé par les chiites.
Il faut l'entendre, parce que c'est contre-intuitif.
Oui, c'est complètement stupéfiant, exactement. C'est bien pour ça que je prends un peu de temps pour l'expliquer, parce que les gens n'y sont pas habitués. Et par exemple, lors de la reprise de Mossoul, l'État islamique, vous aviez à la fois les milices du Hashd Shaabi, la mobilisation populaire, dont le chef a été tué en même temps que Soleimani, dans le convoi qu'il sortait de l'aéroport, hein, Abu Mahdi al-Mohandes, et puis vous aviez en même temps des forces spéciales entraînées par les États-Unis. Donc vous avez aujourd'hui des forces spéciales irakiennes. Donc vous avez aujourd'hui, à l'intérieur de l'appareil sécuritaire iranien, des gens qui travaillent avec les États-Unis, qui ont été formés là, les familles sont là-bas, etc. Et vous avez ceux qui sont avec l'Iran. Alors c'est un peu le pâté d'alouette, si vous voulez, c'est-à-dire 85% Iran et 15% États-Unis. Et là, la menace prise sur la pression de l'Iran, évidemment, au Parlement iranien pour que les États-Unis s'en aillent, veut dire quoi? Veut dire que très probablement, les États-Unis vont se replier en grande partie, vont peut-être lâcher la zone verte à Bagdad, qui n'est plus sécure, comme on l'a vu, et vont se replier sur le Kurdistan irakien, autour d'Erbil, où ils ont la plupart de leurs bases. Ce qui va entraîner toutes sortes de changements dans la région. La vraie question, pour voir si c'est les opérateurs internationaux prennent ces affaires au sérieux ou non, c'est de surveiller précisément l'évolution des cours du pétrole. L'Irak est un des grands producteurs pétroliers aujourd'hui, à la fois dans sa partie irako-irakienne, sa partie kurdo-irakienne. Vous avez vu qu'après les attaques imputées à une milice iranienne sur les installations pétrolières saoudiennes il y a quelques semaines à Abqaiq, le prix du pétrole avait un peu monté pour continuer à descendre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera la même chose, juste une petite flambée sans effet, ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une installation durable,
quelque chose de
dans
plus dur,
une dynamique haussière des prix du brut, ce qui voudrait dire que les opérateurs internationaux et étrangers envisagent une tension et éventuellement un passage à la belligérance. Aujourd'hui, de Beyrouth à Damas, à partout, ce sont des bruits de bottes, des déclarations guerrières, etc. Est-ce que ce sont simplement des cris qui ne seront pas suivis d'actions? Ou le contraire, je crois que pour l'instant, tout le monde retient son souffle.
On va suivre, ça c'est certain. Merci mille fois, hein. Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Je renvoie nos auditeurs vers le livre « Sortir du chaos » paru chez Gallimard en 2018. On va suivre plusieurs choses, évidemment les bruits de bottes et les invectives. On va suivre l'Iran qui a annoncé sa cinquième et dernière phase de désengagement de l'accord sur le nucléaire. Les menaces de Trump d'un autre côté, puis notre rôle à nous aussi, quelque part l'Europe. Quel est le poids de l'Europe dans tout cela? Des Russes. Merci Gilles Kepel d'être passé par le studio d'Europe 1 ce
matin. Merci de votre invitation.
Il est 7h49. Bon réveil à toutes.